Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Villeray, Montréal-Nord, Parc-Sainte-Hélène, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Saint-Léonard, Saint-Michel, Pointe-aux-Trembles, Ville-Marie, Anjou, Antique, Quartier-Ville, Vieux-Montréal. On a l'impression que ça tire partout. À Montréal, le bureau d'enquête a recensé pas moins de 33 incidents impliquant des armes à feu au cours des 6 derniers mois. Ça devient un phénomène assez inquiétant. On a avec nous l'inspecteur du service de police de la Ville de Montréal, David Shane. Monsieur Shane, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, ça, où on a décidé de compiler les données puis de constater que, là, les armes à feu, il y en a de plus en plus à Montréal?
Ben non, c'est pas un phénomène nouveau. Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes qui concourent à nous donner cette lecture actuelle. Bien sûr, ce qu'on a vécu avec la pandémie, le confinement qui a eu pour effet de déplacer le lieu de certaines de ces disputes et de ces événements qui se résolvent par des coups de feu. Et maintenant, avec le déconfinement, la réouverture des terrasses et du centre-ville, nous, notre hypothèse, c'est que ces événements-là vont quitter les lieux résidentiels pour s'en revenir tranquillement vers le centre-ville.
Vers le centre-ville. Est-ce qu'on sait au SPVM, M. Shane, qui sont les auteurs de ces fusillades-là? Est-ce que c'est un certain groupe? Est-ce que vous les connaissez? Où les armes à feu sont de plus en plus disponibles?
Bien, c'est la réponse n'est pas simple. Je vous dirais peut-être en résumé que oui, il y a des groupes criminalisés qui sont responsables pour une majorité de ces événements-là de violence par arme à feu. Cependant, il faut faire attention. Il y a aussi d'autres motifs. Ça peut être une dispute entre d'autres types d'individus qui appartiennent pas nécessairement à des groupes. Il peut y avoir donc un vol qualifié, par exemple, qui tourne mal. Alors, c'est pas 100% qui est attribuable à ces groupes criminalisés, mais il y en a une très grande proportion en ce moment, oui.
Quand, M. Shane, vous parlez de groupes criminalisés, finalement, on parle des gangs de rue?
Oui, ben dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est des gens qui s'associent, qui forment des groupes ou des gangs dans le but de profiter de leur collaboration pour commettre des crimes, pour s'identifier. Donc, oui, gang de rue, gang criminalisée, là, il y a différentes appellations en ce moment qui ont cours.
OK. Donc, si vous, je pense de même, là, si vous contrôlez, si vous mettez le grappin, là, sur essentiellement ces groupes, ce réseau-là, le nombre de fusillades va baisser à Montréal.
Ben c'est clair que pour nous, n'importe qui vient à Montréal puis qui tire des coups de feu dans nos rues, là, ben il va être dans le collimateur du SPVM. Alors que ça sera qui ça voudra, nous on va mettre tous les efforts, toutes les ressources possibles pour faire cesser ces violences et certainement pour les dissuader. Alors oui, en ce moment, tu sais, on a vécu à travers l'histoire des moments, des pics de violence, de conflits entre des gangs. Des fois, c'est plus au niveau du crime organisé traditionnel italien ou les bandes de motards hors la loi. Les gangs criminalisés aussi, là, nous en ont fait voir d'un peu de toutes les couleurs. En ce moment, oui, c'est vrai là, qu'il y a deux groupes en particulier qui se font la guerre, comme on dirait.
Ça, c'est les Profit Boys puis la zone 43.
Entre autres, oui.
Entre autres. Et là, on me disait dans la presse, on écrivait, Daniel Renault écrivait « Conflit qui remonte à 2010 », à quel point ils sont dangereux, puis si vous les connaissez, comment ça se fait que ça continue?
Ben, je vous dirais, là, sans être, là, je suis pas un spécialiste gang de rue, là, je veux pas rentrer trop dans des infos trop temporelles.
Okay.
Mais oui, alors, à partir du moment où on les connaît, c'est clair que pour nous, pour tout corps policier, l'objectif, c'est de les avoir à l'œil, de travailler toutes les informations qu'on peut collecter, pour bâtir une preuve, procéder à l'arrestation et les traduire devant les tribunaux. Mais c'est pas un travail que la police fait seule. Puis je vous dirais, la clé de tout ce travail-là, c'est les signalements qui sont effectués par la population. C'est l'information qui nous vient du public. Elle est vraiment là, la clé, M. Dutrisac. Mmh. Ça nous prend l'information. Plus l'information est précise, plus nous, on est capable de cibler nos interventions pour mettre fin rapidement aux violences. Puis je vous donne un exemple. Quand on travaille des dossiers, par exemple, là, de coups de feu, tentative de meurtre, puis que, par exemple, les victimes collaborent même pas à l'enquête, bien ça, ce que ça veut dire, là, c'est que la police doit s'en remettre à l'exécution de techniques d'enquête. Et c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. Au SPVM, on est très, très, très connaissant et très doué pour ça. Mais c'est que ça prend plus de temps, ça prend plus de ressources. Alors, tandis que, par exemple, au moment où on se parle, il y a peut-être de vos auditeurs qui ont des informations, qui savent ce qui se passe, qui connaissent des gens, qui ont des armes. Alors, ces gens-là peuvent nous le signaler, ben, immédiatement, très rapidement, on peut faire des interventions.
Puis en même temps, M. Chêne, j'imagine que les citoyens ont pas tellement le goût de se frotter aux gangs de rue, puis, tu sais, qu'ils apprennent qu'on a appelé la police à leur sujet, puis on a donné de l'information. C'est en demander beaucoup aux citoyens, non?
Ben oui, vous avez raison, ce sentiment-là anime tout le monde à un moment ou à un autre, mais c'est pourquoi il y a des organismes comme Infocrime qui ont été mis sur pied, qui sont extrêmement professionnels, qui assurent l'anonymat des gens qui appellent, puis qui peuvent même remettre des récompenses dans certains cas.
Ouais, vous avez mis en place l'équipe de lutte contre le trafic d'armes, le groupe ELTA, mais Monsieur Chêne, est-ce que vous savez d'où, comment on se procure une arme à feu, par où et par qui passe cette contrebande?
Ben, c'est une très grande question. Je vais tenter d'y répondre succinctement. Donc, oui, de nos jours, on dit là qu'il y a une plus grande accessibilité des armes. Premièrement, nous, où est-ce qu'on est situé géographiquement, on est à côté d'un pays là qui est probablement celui qui, par capita, a le plus d'armes. Donc, ça, c'est une chose. Il y a l'Internet, les réseaux sociaux qui rendent certains réseaux d'approvisionnement en armes beaucoup plus accessibles. Il y a cette fameuse banalisation de la possession plus d'une arme là, qui a cours en ce moment, particulièrement au sein des groupes criminalisés. Alors, je vous dirais là, que chez nous, les armes qu'on saisit, un peu comme dans tous les autres corps de police, à mon avis, ça vient, oui, principalement d'importations illégales. Alors, ces importations-là, il y a différentes façons là, de les rentrer. La réserve peut en être une, mais il y a également là, les mêmes réseaux, des fois, qui distribuent la cocaïne ou les différentes drogues. Bien, ce même type de réseau-là peut être utilisé pour rentrer des armes. Mais également, il y a aussi le marché légal, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui sont acquises et possédées légalement, qui vont être intentionnellement volés par des groupes criminalisés et réutilisés par la suite dans la rue. Il peut y avoir aussi des armes acquises légalement, mais qui vont être vendues illégalement. Donc, on va, par exemple, biffer le numéro de série, on va revendre cette arme-là, puis là, ça va prendre beaucoup de temps avant que les autorités là, se rendent compte que cette arme-là a été réutilisée. Puis évidemment, ben, le nouveau phénomène là, de fabrication...
Les ghost guns?
Oui, ghost guns, exactement. On peut importer certaines pièces, fabriquer une autre partie. Alors, tout ça, là, ça fait appel à une nouvelle tendance là, pour ce qui est
les guns Ikea là, qu'on monte à la maison, c'est ça. Mais c'est inquiétant, ça. Joe Biden en a parlé du phénomène des ghost guns, des guns qui n'ont pas de numéro de série, qui n'ont rien, que tu montes à la maison pour savoir comment. Mais vous m'avez dit, M. Francœur de la Fraternité des policiers m'a dit la même affaire, les armes passent par la réserve autochtone. Pourquoi on fait rien là-dessus?
Ben moi, je suis pas en position de vous dire qu'on fait rien. Je pense qu'on fait des choses. En tout cas, une chose de ça, au SPVM, on se dote des moyens pour travailler le trafic d'armes. Vous le savez, avec la création de l'équipe de lutte au trafic d'armes à feu. Et je veux dire, le SPVM n'était pas vraiment de ce domaine-là d'activité policière. Et là, depuis le 22 février, on entre dans ce domaine-là et on ouvre un nouveau front contre la lutte contre les violences armées avec l'ELTA.
Ouais, il y a aussi, je suis content de vous avoir, M. Chêne, parce que ça fait longtemps que je veux vous poser la question. Il y a les agressions à l'arme blanche. Puis ce matin, là, j'ai juste fait sur Google « Arme blanche et Montréal », puis il y en a pour des pages et des pages de faits divers où les gens à Montréal ont été poignardés. C'est un vrai problème, et ce que je comprends aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les armes blanches sont privilégiées parce que les sentences, quand on se fait pogner, sont moins sévères.
Ben les sentences, c'est difficile là, de tirer une généralité pour tout ça, mais oui, les armes blanches sont utilisées dans des disputes. À ce moment-là, tu sais, une arme blanche, tout le monde peut s'en procurer. On en a tous à la maison. Tu sais, à la base, là, c'est la violence. Hein? C'est qu'est-ce qui pousse un individu à en agresser un autre, et quel est l'outil qu'il utilise. Ben dans ces cas-là, c'est l'arme blanche. C'est plus communément accessible. Et pourquoi on veut travailler là, les violences par arme à feu? Ben tu sais, dans les violences par armes à feu, là, pour nous, il y a comme deux fronts. Tu as les individus, puis tu as l'outil qu'ils utilisent. Alors, par exemple, Elta va venir travailler sur les outils pour les retirer de la rue. Est-ce que ça va faire en sorte que les individus vont moins s'affronter? Il y a quelque chose là qui se passe. Je pense que vous avez fait un topo là, pas très longtemps, justement, sur les gangs, qu'est-ce qui fait qu'ils se joignent à des gangs, etc. Donc, ces gens-là vont avoir des disputes, ils vont vouloir protéger un territoire ou améliorer leur réputation, commettre des crimes. Et c'est les outils qu'ils vont utiliser. Alors, nous, on veut à la fois travailler les individus qui commettent les violences. Alors, ceux qui utilisent des armes à Montréal, là, ceux qui ne le savent pas, vous allez avoir le SPVM derrière vous. Pas derrière vous, mais dans le SPVM va être dans votre face. Et de l'autre côté, on veut rendre plus difficile l'accessibilité aux armes à feu.
Ouais. Est-ce que craignez-vous que d'être dépassé par les événements, là? Est-ce que il y a une alliance entre à Montréal? Montréal, là, c'est pas Terrebonne, c'est pas Val-d'Or. Là, il y a des problèmes spécifiques à Montréal. Est-ce que le gouvernement du Québec vous appuie là-dedans? Est-ce que vous avez des ressources nécessaires?
Ben nous, en termes de ressources, là, bon, on parle de quoi? On parle de financement, on parle de postes. Alors, c'est de ça, je pense, dont vous voulez parler. On a fait des demandes. On est en attente d'une réponse. On croit qu'on va avoir des réponses dans les prochains jours là, pour avoir des appuis. Alors,
est-ce qu'on comprend vos problèmes, là, ce à quoi vous faites face? Et en plus, dès que vous intervenez, on vous filme. Là. On veut vous pogner au moindre geste un peu trop violent, un peu trop rough. On va vous pogner. C'est ça les règles de la partie désormais. Là, mais en même temps, le problème des gangs de rue, de la violence, des fusillades, ça interpelle les citoyens. Souvent, il y en a qui disent qu'ils ont peur de sortir le soir.
Oui, on comprend. Et nous, c'est notre priorité, M. Dutrisac, c'est la sécurité des citoyens. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait en sorte que quand on fait face à des situations, des criminalités émergentes, des vagues de violence, on surveille de base un dissent, M. Dutrisac, au SPVM. On forme des équipes, on forme des groupes, des équipes comme Elta rapidement. Et on fait ça avant. On n'attend pas après l'embauche, on n'attend pas après le financement. On est obligé d'agir dans l'immédiat. Mm-hmm. Et par la suite, on rattrape et là, on fait nos demandes. Et oui, on a une très bonne oreille là, pour entendre nos besoins et toute aide est la bienvenue. Là,
on a vu des actes de violence dans le centre-ville, mais dans le Vieux-Montréal, même vos policiers l'année passée se sont fait tirer dessus dans le Vieux-Montréal. Est-ce que c'est en train de déraper? Là? Bon, on ne veut pas que Montréal devienne Toronto. Là.
Non. Nous, ce qu'on veut, c'est que on veut assurer la sécurité de tous les citoyens sur toute l'île de Montréal. Et comme organisation, on est très agile pour adapter nos interventions, nos effectifs pour faire face à ces criminalités-là. Puis, M. Dutrisac, faut le dire, vous le savez, là, tu sais, la police, on a beau, des fois, dans certains domaines, on réussit à reprendre un peu d'initiative, mais en somme, on réagit. L'initiative, là, c'est les criminels, c'est les personnes, tu sais, qui décident de commettre des crimes. Et par la suite, nous, l'objectif, c'est de détecter ça le plus rapidement et y réagir. Pour ce qui est du Vieux-Montréal, oui, il y a ce fameux déplacement là des événements dû tout le contre-coup, si on veut, du confinement, déconfinement, etc. Mais en ce moment, on a un plan de match là bien élaboré pour le Vieux-Montréal. Vous avez vu déjà la fin de semaine dernière, les événements se sont bien passés. Les commerçants, associations de commerçants nous ont remerciés et nos policiers sont présents en grand nombre sur le terrain là pour sécuriser les citoyens.
Bon, OK. Ben deux dernières affaires. Là. D'abord, présentement, là, il y a un sentiment là où vous, on vous surveille, la police. On a vu George Floyd, là, puis là, on vous analyse selon cette grille-là. On vous accuse de racisme systémique, de profilage racial. À quel point vous marchez sur des œufs? À quel point vous avez besoin de vous surveiller quand vous intervenez?
C'est une excellente question, M. Dutrisac. Je vous dirais que c'est difficile en ce moment d'être un policier. On en a parlé là il y a quelques semaines parce que oui, vous avez raison, à la fois on veut sécuriser la population, ce qui demande plus d'interventions policières. De notre côté, on regarde ces interventions-là et on veut toujours qu'elles se passent bien, qu'elles soient empreintes de professionnalisme. Et je vous dirais là que la clé dans ça, c'est notre personnel. Je vais parler pour nous au SPVM, notre personnel est très professionnel et très engagé. Le serment qu'ils ont prêté là, de protéger et servir, ils le prennent à cœur. Alors oui, il y a des difficultés et ils ont l'appui de la direction du SPVM, de leur gestionnaire, de leur superviseur.
pour non, mais vos policiers sont pas parfaits. Il y a personne de parfait. Non. Je dois vous dire une chose, même les animateurs de radio sont pas parfaits. Ça, c'est juste entre vous et moi, là.
Mais oui, je ne dirai pas à personne.
Non, merci. mais il y en a des croches dans la police. Il y en a des croches partout, là. Vous devez surveiller tout ça, là, pendant les interventions. On a vu qu'il était un peu trop musclé. Ça change la donne, ça, dans votre réflexe. Puis là, même qu'on a dit, il y a des policiers qui préfèrent regarder à gauche quand il y a un événement qui se passe à droite.
Oui. Ben oui, Monsieur Dutrisac, puis j'ai pas dit que nos policiers étaient parfaits. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils étaient professionnels et engagés. Mais vous savez, c'est ça qui nous tient. Les gens qui ont joint le SPVM, là, c'est parce qu'ils avaient un profond désir de faire une différence, de protéger autrui, protéger des gens qu'ils connaissent même pas, puis pour qui ils sont prêts à mettre leur vie en jeu. Alors de l'autre côté, ben on vit dans la société. Les policiers sont issus de cette société. Hein, il y avait Peel là au 19e siècle qui disait la police est la société, la police. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nos policiers viennent de cette société. Alors, les problèmes qu'on vit en société, bien sûr qu'on les retrouve dans la police. Et quand on parle de tous ces phénomènes, par exemple, de profilage racial ou ces choses-là, bien, c'est sûr que nos êtres humains que sont nos policiers, ça arrive là qu'ils peuvent avoir des écarts. Et comme dans toute profession, et vous l'avez dit, mais au cœur de tout ça, va toujours demeurer la mission fondamentale de la police qui est de protéger les citoyens. Et chez nous, c'est ça qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on se veille de bord quand il y a des violences, qu'on met en place des structures, des équipes pour lutter contre ces violences-là, puis pour sécuriser les citoyens.
Êtes-vous prêt, en conclusion, M. Chêne, êtes-vous prêt à une Coupe Stanley à Montréal, là? Êtes-vous prêt à contrôler tout ça?
Ben, je pense qu'on peut jamais être prêt à 100%, mais vous savez, à Montréal, on a une bonne expertise de la gestion de foule des games du Canadien. On le voit, la fin de semaine dernière, tout s'est bien passé. Évidemment, là, on a continué à analyser la situation. Les mesures de déconfinement progressif évoluent aussi d'une semaine à l'autre. Alors, on est en train d'analyser, planifier avec les effectifs les plans d'intervention requis, les outils requis pour faire en sorte que les Montréalais puissent festoyer. On va être très content si le Canadien gagne, mais qu'il gagne ou perde, notre message à la population, c'est exprimons-nous dans l'harmonie, dans le respect des autres et dans le respect du mobilier urbain.
Pourriez engager Dave Morissette, puis Georges Larac, puis Enrico Ciccone, tu sais, comme pour lancer un petit message. Non, c'est correct.
On peut s'en reparler hors d'onde, s'il vous plaît.
Parfait, c'est une idée de même. J'essaie d'aider. Inspecteur du SPV.